Nous allons revenir à l'histoire des royaumes de Juda et d'Israël et lire au deuxième livre des Rois, chapitre 11. Toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des temps, il faut que nous en prenions connaissance. Deux Rois, chapitre 11. Athalie, mère d'Akasia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale. Mais Josheba, fille du roi Joram, sœur d'Akasia, prit Joas, fils d'Akasia, et l'enleva du milieu des fils du roi. Quand on les fit mourir, elle le mit avec sa nourrice dans la chambre des lits. Il fut ainsi dérobé au regard d'Athalie et ne fut point mis à mort. Il resta 6 ans caché avec Josheba dans la maison de l'Éternel. Et c'était Athalie qui régnait dans le pays. La 7e année, Jéhojada envoya chercher les chefs de centaines des Kérétiens et des coureurs. Et il les fit venir auprès de lui dans la maison de l'Éternel. Il traita alliance avec eux et les fit jurer dans la maison de l'Éternel et il leur montra le fils du roi. Puis il leur donna ses ordres en disant, « Voici ce que vous ferez. Parmi ceux de vous qui entrent en service le jour du sabbat, un tiers doit monter la garde à la maison du roi, un tiers à la porte de Sûr et un tiers à la porte derrière les coureurs. » Vous veillerez à la garde de la maison de manière à en empêcher l'entrée. Vos 2 autres divisions, tous ceux qui sortent de service le jour du sabbat, feront la garde de la maison de l'Éternel auprès du roi. Vous entourerez le roi de toutes parts, chacun les armes à la main, et l'on donnera la mort à quiconque s'avancera dans les rangs. Vous serez près du roi quand il sortira et quand il entrera. » Les chefs de centaines exécutèrent tous les ordres qu'avait donné le sacrificateur Jéhojada. Ils prirent chacun leurs gens, ceux qui entraient en service et ceux qui sortaient de service le jour du sabbat, et ils se rendirent vers le sacrificateur Jéhojada. Le sacrificateur remit aux chefs de centaines les lances et les boucliers qui provenaient du roi David et qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel. Les coureurs, chacun les armes à la main, entourèrent le roi et se plaçant depuis le côté droit jusqu'au côté gauche de la maison, près de l'autel et près de la maison. Le sacrificateur fit avancer le fils du roi et il mit sur lui le diadème et le témoignage. Ils l'établirent, roi, éloignirent, et frappant des mains, ils dirent « Vive le roi !» Athalie entendit le bruit des coureurs et du peuple, et elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel. Elle regarda, et voici, le roi se tenait sur l'estrade, selon l'usage. Les chefs et les trompettes étaient près du roi, tout le peuple du pays était dans la joie, et l'on sonnait les trompettes. Athalie déchira ses vêtements et cria « Conspiration, conspiration !» Alors le sacrificateur Jéhojada donna cet ordre au chef de centaine qui était à la tête de l'armée, « Faites-la sortir en dehors des rangs et tuez par l'épée quiconque la suivra. » Car le sacrificateur avait dit qu'elle ne soit pas mise à mort dans la maison de l'Éternel. On lui fit place et elle se rendit à la maison du roi par le chemin de l'entrée des chevaux. C'est là qu'elle fut tuée. Jéhojada traita entre l'Éternel, le roi et le peuple, alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Il établit aussi l'alliance entre le roi et le peuple. Tout le peuple du pays entra dans la maison de Baal et ils la démolirent. Ils brisèrent entièrement ses autels et ses images et ils tuèrent devant les autels Matan, prêtre de Baal. Le sacrificateur Jéhojada mit des surveillants dans la maison de l'Éternel. Il prit les chefs de centaines, les Kérétiens et les coureurs, et tout le peuple du pays, et ils firent descendre le roi de la maison de l'Éternel, Et ils entrèrent dans la maison du roi par le chemin de la porte des coureurs, et Joas s'assit sur le trône des rois. Tout le peuple du pays se réjouissait, et la ville était tranquille. On avait fait mourir Athalie par l'épée dans la maison du roi. Voilà des événements bien dramatiques, bien tragiques, du sang versé, toujours. Et c'est bien parce que le peuple qui a été formé, qui a été choisi, a été élu pour être le peuple de Dieu, pour servir Dieu et pour préparer, que se prépare en son sein le salut de l'humanité, ce peuple se détourne constamment des voies droites, des voies que Dieu lui a prescrites, et bien entendu, il s'ensuit des événements tragiques, douloureux, il s'ensuit tous ces événements où le sang coule et l'épée blesse. Nous sommes ici au début du règne de Joas, le règne de Joas. Mais c'est Athalie, la veuve de Joram et la mère d'Akasia, Akasia qui était roi de Juda, ne confondons pas les rois de Juda et d'Israël. Les rois de Juda sont à Jérusalem, les rois d'Israël sont à Samarie. Athalie, donc, mère d'Akasia, roi de Juda, était la fille de cette abominable Jézabel et de ce roi non moins abominable, pauvre homme sans force, qu'était le roi Akab. Akab et Jézabel étaient donc le couple royal. Ils étaient l'un et l'autre roi et reine d'Israël, du royaume d'Israël. Mais Athalie, leur fille, était par alliance devenue reine de Juda. Elle était montée sur le trône de David, cette femme également abominable. Akasia, le roi de Juda, donc, je précise bien, fils d'Athalie, venait d'être tué par Jéhu. Jéhu qui avait été oint pour cela, oint sur l'ordre de l'Éternel Dieu, il l'avait été par Élisée. Et Athalie, ayant pris la possession du trône de Juda, s'étant donc elle-même instituée reine de Juda, occupait d'une façon absolument irrégulière le trône de David. Elle se leva, nous est-il dit. Voyant que son fils était mort, elle se leva. Elle se leva par une ferme et subite résolution et cédant à son terrible penchant, elle fit périr toute la race royale, c'est-à-dire tout ce qui restait des descendants de David. La race royale, n'est-ce pas, les descendants de David. Et ce qu'il y a de plus terrible, c'est que cette race royale était composée de ses propres petits-fils, les enfants d'Akasia. Et ce sont ses petits-fils qu'elle fait tuer de la sorte. Pourquoi un tel massacre? Eh bien, parce que Jéhu avait, lui, précédemment, fait périr toute la famille d'Athalie au nom de l'Éternel. Alors, Athalie veut éteindre la maison de David malgré cette promesse de l'Éternel qu'elle n'ignorait pas et que nous avons dans 2 Samuel 7, promesse concernant le trône de David, 2 Samuel 7, verset 12. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtirai avec la verge des hommes, et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. La maison de David, donc, devait être pour toujours la dynastie, en somme, toujours assurée, et le trône de David pour toujours affermi, de façon à ce que le fils promis vienne un jour s'y asseoir. Et nous savons qu'il ne s'y est pas encore assis, mais le temps s'approche où le Seigneur Jésus, fils de David selon la chair, s'assiera sur le trône de David à Jérusalem. Et ce trône de David est appelé le trône de sa gloire. Eh bien, Athalie n'ignorait pas cela. Et malgré cette parole, elle n'hésite pas à détruire toute la race royale. Elle croyait en avoir fini avec tous les descendants de David. Tous ceux qui étaient susceptibles de monter sur le trône, ses propres petits-fils notamment. Pour elle, évidemment, la parole de Dieu n'avait aucune valeur. C'était une femme idolâtre, étrangère. Elle n'avait évidemment aucune confiance, aucune foi dans la parole de Dieu. Et ce qu'elle s'ingéniait à faire, c'était de faire mentir les promesses de Dieu en s'opposant par la force à la poursuite des desseins de Dieu. Ce qu'elle commettait était bien entendu, très nettement, le péché contre le Saint-Esprit. Voilà une femme qui commet le péché contre le Saint-Esprit, ce péché qui consiste à se mettre en travers des desseins de l'Éternel. On pense que le péché de contre le Saint-Esprit, c'est le blasphème, mais on ne sait pas quelle est la portée du blasphème. Le blasphème, c'est pas seulement une parole offensante ou même injurieuse pour Dieu. Le blasphème consiste soit à se mettre à la place de Dieu. Se mettre à la place de Dieu, c'est un blasphème. C'est de quoi, d'ailleurs, on accusera le Seigneur Jésus. Selon la loi, la vue était juste. Tu te fais Dieu. Et quand on aura la conviction que Jésus s'est fait Dieu, alors on l'accusera de blasphème. L'accusation... Évidemment, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus se faisait Dieu à juste titre. Il en avait, bien sûr, le droit. Il était dans la vérité, mais les autres ne le croyaient pas. Et en se faisant Dieu, n'est-ce pas, à leur gré, ils blasphémaient. L'accusation était fondée. Elle était fondée, n'est-ce pas, à leur point de vue. Selon la loi, elle était fondée. Donc, le blasphème contre le Saint-Esprit consiste à se mettre à la place de Dieu et consiste encore à entraver à main forte les desseins de Dieu. Se mettre en travers des desseins de Dieu, vouloir les arrêter, arrêter leur cours, empêcher l'œuvre de Dieu de se poursuivre, c'est commettre le péché contre le Saint-Esprit, et ça ne pardonne pas, vous le savez. C'est tout ça le péché contre le Saint-Esprit. On peut l'appeler en gros le blasphème contre le Saint-Esprit, mais pas seulement une parole, n'est-ce pas? Pas seulement d'attribuer les miracles authentiques du Saint-Esprit à Belzébul. C'est tout cela, n'est-ce pas? Soit se mettre à la place de Dieu, soit entraver l'œuvre de Dieu. Entraver de différentes manières. Eh bien, pensons à cela, mes amis, n'est-ce pas? Et vous savez, nous avons vu avec le Cantique des Cantiques qu'il ne fallait jamais lutter contre l'amour de Dieu. Jamais, n'est-ce pas, faire quelque chose à contre-courant de l'amour de Dieu, à contre-courant de la miséricorde de Dieu. C'est infiniment grave, Il faut que nous ayons connaissance de ces choses, mes amis. Parce que nous pourrions le faire peut-être par ignorance. Il faut que nous ayons connaissance de ces choses. Enfin là, avec Athalie, il s'est trouvé, bien sûr, une de ces femmes abominables et terribles. Et, mes amis, cette femme abominable, comme l'avait été la Jézabel, sachez que l'image d'une telle femme subsistera dans tous les temps, et que la grande prostituée de la fin dont nous parlent les chapitres 17 et 18 de l'Apocalypse, et nous savons quelle est cette prostituée, cette femme parée d'or et de pierres précieuses, un manteau de pourpre, un manteau royal sur le dos qui étend les pans de son manteau sur les grandes eaux de la mer, c'est-à-dire les foules, les peuples, les nations, comme l'explique le texte lui-même, n'est-ce pas? N'oublions pas que sa résidence est Rome, n'oublions pas ce qu'elle est, elle représente la mer des abominations, et je dis bien que les images d'une Jézabel et d'une Athalie ont servi de principe à cette figure qui nous représente ainsi la religion dite chrétienne, dite catholique romaine, et qui, par le moyen de l'œcuménisme, va devenir la super église de la fin pour peu de temps. N'oublions pas ces choses, n'oublions pas cela. Nous n'avons pas seulement quelques petits reproches superficiels à faire au catholicisme romain, nous avons un rejet, nous avons à le rejeter massivement, totalement, parce que c'est une Jézabel, c'est une Athalie. Voilà, n'est-ce pas? C'est le péché contre le Saint-Esprit. Quand, par exemple, on instruit des hommes pour leur faire entendre, et cela, bien sûr, dans le droit fil de la chair, c'est-à-dire de la nature humaine, de la chute, pour leur faire entendre qu'avec des œuvres et des mérites, ils vont pouvoir être sauvés, c'est mener ces hommes tout droit à l'enfer, et c'est faire l'œuvre de l'ennemi, bien entendu. Il ne faut pas qu'à notre époque, tout ce souffle de charismatique nous fasse perdre de vue que la prostituée des chapitres 17 et 18 de l'Apocalypse, c'est d'abord cette religion romaine qui, par le moyen de l'œcuménisme, va avoir un moment d'extension sur la terre, devenir la super-église, jusqu'au moment où l'Antichrist et les 10 rois vont se jeter sur elle pour accomplir le jugement dont Dieu déjà l'a frappé. Sachons qu'elle est jugée, déjà, et que sa perte est résolue. Jusque-là, jusqu'à Athalie, on pouvait constater, malgré tous les événements contraires à la promesse faite à David, que tout s'était réalisé. En effet, le royaume d'Israël avait eu une succession de rois et de dynasties. Et les rois n'appartenaient pas à la même dynastie, ils s'en présentaient une presque à chaque succession. Tandis que le royaume de Juda, lui, était resté à la dynastie de David. Jusque-là, donc, la promesse faite à David concernant sa maison s'était accomplie. Et cette femme le savait. Elle, volontairement, elle piétine les liens de l'affection maternelle. Et plus encore, s'insurge par le meurtre contre les desseins de Dieu. Il y aura dans l'histoire des personnages de cette sorte, quand ce ne serait que Hérode, par exemple, Hérode qui voulut faire mourir tous les enfants de Bethléem. Jocheda qui était la tante, Jocheda, fille du roi Joram et sœur d'Acasia. Par conséquent, elle était la tante de ce petit Joas qui est tout jeune, c'est un enfant, puisque il va monter sur le trône, il aura 7 ans, vous voyez. Alors, Joas est le seul qui va échapper au massacre d'Athalie, et il échappe par l'action de Jocheba, qui est la sœur de son père, donc sa tante. Et c'est elle qui l'enlève du milieu des fils du roi. Elle trouve le moyen de mettre ce petit enfant de côté, si bien que le massacre fait mourir les autres, mais lui, il est excepté. Et elle le mit avec sa nourrice dans la chambre d'Élie. La chambre d'Élie, c'était une sorte de garde-meuble qui était l'une des pièces entourant le temple. Donc cette chambre d'Élie était dans le temple. Et c'est dans le temple ou la maison de l'Éternel que le petit Joas va rester là quelques années. Il va rester enfermé là, et c'est là qu'on veillera sur lui, c'est là qu'on viendra le nourrir. On ne pouvait pas le mettre ailleurs. On ne pouvait pas le mettre dans la maison du roi, puisque Athalie y habitait dans cette maison. Et ensuite, le sacrificateur Jehojada, la septième année, donc Joas était vraiment tout petit quand on le mit de côté, c'était un bébé. Eh bien, la septième année, alors Jehojada, qui était le souverain sacrificateur, prend des dispositions. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces dispositions. Il prend notamment les Kérétiens, c'était ceux qui constituaient la garde royale, la garde du corps. Et il envoie aussi chercher ceux qui sont appelés les coureurs. Et alors il prend avec eux, il traite alliance avec eux, il prend des dispositions. En gros, ces dispositions consisteront à un certain moment à entourer le roi de plusieurs rangées d'hommes armés, bien armés, et quiconque franchirait vers le roi les rangées de ces hommes qui l'entourent de tous les côtés, de toutes parts, n'est-ce pas, celui-là serait immédiatement mis à mort. Qu'il ait une intention ou l'autre, n'est-ce pas, il serait mis à mort. Parce que il n'y avait plus que ce survivant de la race royale, il n'y avait plus que cet enfant de 7 ans, n'est-ce pas. Alors il fallait, bien sûr, le préserver d'une manière particulière. Et puis, il va le faire entrer dans le temple, et dans le temple, il improvise une sorte de cérémonie, on sonne des trompettes, et tout cela, évidemment, produit un certain bruit qui vient aux oreilles d'Athalie. Athalie vient voir ce qui se passe dans la maison de l'Éternel, et quand elle réalise qu'on a fait asseoir le jeune Joas, dont elle ne savait pas l'existence, elle ne connaissait pas son existence, elle croyait qu'elle était quitte de tous les descendants de David, mais alors, n'est-ce pas, elle déchire ses vêtements, et c'est là qu'elle crie conspiration et conspiration. Pour ne pas la faire mourir, parce que Jehojada avait donné cet ordre, à titre de respect, bien sûr, il ne voulait pas qu'on use de l'épée contre elle dans la maison de l'Éternel. Alors on l'a fait sortir, et lorsqu'elle est sortie pour aller à la maison du roi, on la tue, et elle meurt là. Et aussitôt, Elle fut tuée, donc on lui fit place, elle se rendit à la maison du roi par le chemin de l'entrée des chevaux, et c'est là qu'elle fut tuée, à l'entrée de la maison du roi, qui n'était pas excessivement éloignée du temple, c'est là qu'elle fut tuée. Alors Jéhojada, à ce moment-là, trait alliance entre l'Éternel, le roi et le peuple, c'est-à-dire qu'il remet en honneur l'alliance, le respect à l'alliance, l'alliance contractée avec Moïse, et puis il établit aussi alliance entre le peuple et le roi, c'est-à-dire qu'il présente au peuple le roi et demande au peuple de le regarder désormais comme son roi. Joas, dans la maison du roi, s'assoit sur le trône de ses prédécesseurs, le trône de David par conséquent, et voilà comment ce grand événement se termine. La maison de Baal est soumise à la démolition et l'on brise entièrement ses autels, ses images, mettant également à mort le matant, le prêtre de Baal. Car Athalie avait bien entendu réintroduit le taureau, le culte de Baal en Juda. Nous allons arriver maintenant au chapitre 12 et nous allons lire les 16 premiers versets. Ce que nous n'avons pas lu, il y a un petit verset 21 que je n'ai pas lu tout à l'heure parce qu'il était séparé par un titre. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi. Alors, chapitre 12. La 7e année de Jéhu, Joas devint roi et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tsibja de Beersheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tout le temps qu'il suivit les directions du sacrificateur Jéhojada. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Joas dit au sacrificateur, « Tout l'argent consacré qu'on apporte dans la maison de l'Éternel, l'argent ayant cours, savoir l'argent pour le rachat des personnes, d'après l'estimation qui en est faite, et tout l'argent qu'il vient au cœur de quelqu'un d'apporter à la maison de l'Éternel, que les sacrificateurs le prennent, chacun de la part des gens de sa connaissance, et qu'il l'emploie à réparer la maison partout où il se trouvera quelque chose à réparer. Mais il arriva que la 23e année du roi Joas, les sacrificateurs n'avaient point réparé ce qui était à réparer à la maison de l'Éternel. Le roi Joas appela le sacrificateur Jéhojada et les autres sacrificateurs, et leur dit, « Pourquoi n'avez-vous pas réparé ce qui est à réparer à la maison ? Maintenant, vous ne prendrez plus l'argent de vos connaissances, mais vous le livrerez pour les réparations de la maison. » Les sacrificateurs convinrent de ne pas prendre l'argent du peuple et de n'être pas chargés des réparations de la maison. Alors, le sacrificateur Jéhojada prit un coffre. Le livre des, le deuxième livre des chroniques nous dit que c'est sur l'ordre du roi Joas. Le sacrificateur Jéhojada prit un coffre, perça un trou dans son couvercle et le plaça à côté de l'autel, à droite, sur le passage par lequel on entrait à la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs qui avaient la garde du seuil y mettaient tout l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel. Quand ils voyaient qu'il y avait beaucoup d'argent dans le coffre, le secrétaire du roi montait avec le souverain sacrificateur et il servait, et il serrait, pardon, et comptait l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel. Il remettait l'argent pesé entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel, et l'on employait cet argent pour les charpentiers et pour les ouvriers qui travaillaient à la maison de l'Éternel, pour les maçons et les tailleurs de pierre, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison de l'Éternel, et pour toutes les dépenses concernant les réparations de la maison. Mais avec l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel, on ne fit pour la maison de l'Éternel ni bassin d'argent, ni couteau, ni coupe, ni trompette, ni ustensile d'or ou d'argent. On le donnait à ceux qui faisaient l'ouvrage afin qu'ils l'employassent à réparer la maison de l'Éternel. On ne demandait pas de compte aux hommes entre les mains desquels on remettait l'argent pour qu'ils le donnassent à ceux et qui faisaient l'ouvrage, car ils agissaient avec probité. L'argent des sacrifices de culpabilité, des sacrifices d'expiation, n'était point apporté dans la maison de l'Éternel, il était pour les sacrificateurs. L'impie Athalie et ses fils avaient pillé la maison de Dieu, et cela, nous le savons par le passage parallèle de 2 Chroniques 24 au verset 7, car l'impie Athalie et ses fils ont ravagé la maison de Dieu et fait servir pour les Baals toutes les choses consacrées à la maison de l'Éternel. C'est bien cela qu'on fait quand tout se désagrège, quand la foi se perd, immédiatement qu'un substitut de la foi se présente, et ça c'est une idolâtrie, bien entendu, une sorte de religion vient prendre la place de la fidélité, de la ferveur, de la vraie consécration à Dieu. C'est ce qui se passe et ce qui s'est passé dans notre christianisme au cours des siècles. C'est ça, n'est-ce pas, exactement. On perd de vue la fidélité, et alors, la vraie maison de Dieu, c'est-à-dire le temple, cette maison dont parle Pierre, n'est-ce pas, cette maison qui est bâtie de pierres vivantes et qui est l'image de la véritable Église, eh bien, alors on la laisse, on la délaisse, et elle est délabrée, elle est même ravagée, et on fait servir pour les Baals toutes les choses qui lui était, qui était destiné à la vraie maison de Dieu, la vraie maison de l'Éternel, à la véritable Église. On les fait servir, c'est-à-dire qu'on prend encore de l'Évangile, on trouvera aujourd'hui dans le romanisme bien des passages, bien des écrits ou des prédications, utilisant les évangiles, bien sûr, on fera servir cela à l'apostasie, tout simplement. Voilà, n'est-ce pas, les choses se répètent dans une humanité qui est tellement appelée à la corruption par sa propre nature, lorsque cette humanité échappe à Dieu et se retire de Dieu, lorsqu'elle ne reste pas dans la main de l'Éternel, voilà ce qui se produit, n'est-ce pas, en tout temps. Ces choses ont été écrites pour que nous réfléchissions à tout cela et que nous-mêmes ayons la fidélité à notre Dieu. En dehors de la fidélité, de l'amour et d'un amour fidèle, il n'y a rien, rien, c'est l'amour qui doit rester en vue, l'amour qui est assorti, bien entendu, de fidélité. Il nous est dit que Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tout le temps qu'il suivit les directions du sacrificateur Jéhojada. Et dans le chapitre 24 de 2 Chroniques, il nous est dit que Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada. Ce sacrificateur qui s'était dévoué pour le garder, le mettre à l'abri d'Athalie et le rétablir sur le trône quand le moment serait venu. Ce sacrificateur va vivre jusqu'à 130 ans d'ailleurs, lui-même, voyez, sa vie a été prolongée par le Seigneur, Et il a vécu donc un certain nombre d'années, étant là aux côtés de ce jeune roi, Joas, pouvant lui donner des directions, et en tout cas, même en dehors des directions du sacrificateur à l'adresse du roi, ce roi lui-même se comportait d'une façon fidèle. Évidemment, il y avait tout de même une grave insuffisance, puisque les hauts lieux, nous a dit notre texte, seulement les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. On remet bien une partie des choses en ordre, mais pas tout. On laisse encore subsister des traces, plus que des traces même, disons, des pratiques idolâtres, des pratiques qui ne peuvent pas être à la gloire de Dieu, ni à la satisfaction de Dieu, bien entendu. Alors, tout cela nous parle, mes amis. Si nous voulons, nous, être l'Église primitive, c'est bien, nous avons raison. Soyons comme ce roi Joas ou même comme d'autres qui eux aussi ont voulu revenir de tout leur cœur à la fidélité et entrer dans les voies qui étaient celles de David, car c'est lui qui sert de modèle, les voies de David, la conduite de David, la manière de servir de David. C'est bien que nous ayons nous aussi, n'est-ce pas, la volonté d'être vraiment des fidèles imitateurs de Christ. C'est magnifique, mais attention de ne rien laisser subsister et qui soit encore quelque chose provenant de pratiques impures. Faisons attention d'être vraiment et totalement droit devant Dieu, fidèle devant Dieu, appliqué à sa parole, seulement à sa parole. Ne laissons rien subsister. Et plusieurs fois on voit cela dans certains règnes, n'est-ce pas? Un roi qui, reprend le cours satisfaisant d'une conduite qui peut plaire à Dieu, mais qui laisse toujours subsister certaines choses qui proviennent de l'idolâtrie. Oh, ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est secondaire, on n'y fait pas attention. Dieu y fait attention, mes amis. Dieu y fait attention. Attention que dans nos vies, tout ce qui n'est pas pur, tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, tout ce qui n'est pas fidèle, soit châtié et supprimé, n'est-ce pas? Il faut faire ça dans sa propre vie, pour que ça se fasse aussi dans l'Église. Mais le règne de Jéhojada se trouve en somme partagé en deux parties très différentes l'une de l'autre, par la mort du souverain sacrificateur Jéhojada. Dans la première partie, et alors que ce sacrificateur est en vie, le roi Joas agit fidèlement, sauf évidemment ce qu'il laisse subsister, n'est-ce pas, de pratiques idolâtres sur les hauts lieux qui ne sont pas supprimés. Il agit fidèlement d'abord, puis ensuite, sitôt la mort de Jéhojada intervenue, il se comporte en impie. En effet, je vous lirai ce qu'il fait après la mort de Jéhojada, 2 Chroniques 24:17. Après la mort de Jéhojada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors le roi les écouta, et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et ils servirent les Astartés et les idoles. La colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem, parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui, mais ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils en reçurent. Zacharie, fils du sacrificateur Jéhojada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et dit, « Ainsi parle Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prospérerez point. car vous avez abandonné l'Éternel, et il vous abandonnera. » Et ils conspirèrent contre lui et le lapidèrent par ordre du roi dans le parvis de la maison de l'Éternel. Le roi Joas ne se souvint pas de la bienveillance qu'avait eue pour lui Jéhojada, père de Zacharie, et il fit périr son fils. Zacharie dit en mourant, que l'Éternel voie et qu'il fasse justice. Vous voyez ce que devient ce roi Joas, comme il change du tout au tout à partir de cet événement qui survient vers le milieu de son règne, la mort de Jéhojada. Eh bien, pendant la première partie de son règne, le roi a fait preuve d'un certain zèle, comme nous l'avons lu, pour restaurer la maison de l'Éternel, et il institue même une pratique nouvelle, il fait placer un grand coffre dans le temple, avec un trou dessus, une fente, mettons, large, parce qu'à ce moment-là, c'était pas les pièces de monnaie que l'on mettait, mais c'était des morceaux de métal, qui en général étaient pesés, petits lingots ou pièces de formes diverses, c'était du métal que l'on mettait là. Alors il y avait un trou pour mettre dans ce coffre tout cela. Et l'argent abonda. Le deuxième livre des Chroniques, toujours ce chapitre 24, nous dit que l'argent abonda. Et ils recueillirent de l'argent en abondance. Vous voyez, le peuple avait répondu. Quand conduit le peuple dans la bonne voie, voyez-vous, eh bien, et cela, bien sûr, en suivant les directions du Saint-Esprit, eh bien, le peuple se conforme. Le verset 10 du chapitre 24 de 2 Chroniques nous dit « Tous les chefs et tout le peuple s'en réjouirent, et l'on apporta et jeta dans le coffre tout ce qu'on avait à payer. » Quand c'était le moment où les Lévites, voyant qu'il y avait beaucoup d'argent dans le coffre, devaient le livrer aux inspecteurs royaux, le secrétaire du roi et le commissaire du souverain sacrificateur venaient vider le coffre, ils le prenaient et le remettaient à sa place, ils faisaient ainsi journellement, tous les jours ils vidaient le coffre, et ils recueillirent de l'argent en abondance. Donc, vous voyez que le roi avait une grave responsabilité devant l'Éternel. Une très grave responsabilité, parce que lorsque le peuple était bien conduit, bien dirigé, eh bien, le peuple répondait. Il fallait donc que le roi fût un conducteur fidèle. Pourquoi Joas change-t-il après la mort du souverain sacrificateur? Pourquoi ce changement brusque lorsque le sacrificateur meurt? Eh bien, tout simplement parce que son cœur n'était pas ferme. Il n'était pas entièrement dévoué à l'Éternel. Vous savez que c'est une expression de la Bible, cela, et il faut que nous la retenions, un cœur entièrement dévoué à l'Éternel. Pas partiellement, pas en grande partie même, entièrement dévoué à l'Éternel. Eh bien, ce Joas n'avait pas ce cœur. Il servait l'Éternel et a fait de bonnes choses pendant la vie du sacrificateur. Pourquoi a-t-il fait de bonnes choses à ce moment-là? Eh bien, par amour propre. En lisant bien les textes, on s'aperçoit en effet qu'il servait l'Éternel pour être vu de Jéhojada. Hein? Même non seulement il suit, je le disais tout à l'heure, ses instructions, mais lui-même prend les devants. Hein? Il voulait montrer au sacrificateur Jéhojada qu'il était un roi fidèle. Il voulait être bien jugé par Jéhojada. Il y avait dans son cœur une certaine fierté. Il y avait une fierté qui le poussait à cela. Il ne voulait pas que l'on dise de lui qu'il était semblable à ses devanciers,
Alors, sous l'œil de Jéhojada, il a fait opérer des travaux, restaurer le temple qui en avait bien besoin. D'après ce qu'on voit, les travaux étaient importants. Et ce pauvre temple de Salomon était bien délabré. Alors il fait opérer les travaux, semblant dire à Jéhojada, tu vois quel roi je suis, combien tu as eu raison de m'établir sur le trône en sauvant ma vie. Mais il n'avait pas l'amour de l'Éternel. Voilà tout simplement ce qui lui manquait. Il ne servait pas l'Éternel avec un cœur entièrement dévoué à l'Éternel. Son cœur n'était même pas dévoué à l'Éternel. Il n'aimait pas l'Éternel. Il s'aimait lui-même. Il voulait paraître lui-même. Il attachait à sa conduite un certain amour propre. Parce que Jéhojada le voyait, il avait cette fierté d'être bien jugé par le sacrificateur Jéhojada. Mais quand celui-ci meurt et disparaît, voici que les mauvais conseillers s'avancent, le roi immédiatement les écoute. Il n'y a rien dans son cœur, il n'y a rien, mes amis, rien. Cela peut être pour nous matière à réflexion. N'y aurait-il pas, mes amis, dans l'Église, ne serait-il pas possible qu'il y eût des personnes qui servent pour être vues ainsi ou qui servent en raison d'une certaine recherche de satisfaction personnelle et qui, lorsque un événement survient, il y a un changement, soit dans l'Église, soit un changement peut-être de lieu pour eux, un changement, quelque chose intervient dans les circonstances où ils se trouvent, et eux, ils changent tout aussitôt, ils découvrent que leur cœur en réalité n'était pas dévoué à l'Éternel et qu'ils ne servaient pas l'Éternel par amour. La leçon de tout cela, mes amis, c'est qu'il faut que nous sondions notre cœur et que nous sachions si nous servons bien l'Éternel par amour. Nous ne servons pas pour être vus d'un tel, être vu du pasteur, être jugé, bien jugé par l'Église, n'est-ce pas? C'est excellent d'être l'objet, disons, d'une bonne renommée, qu'on donne de soi un bon témoignage, ça certes il le faut, mais ce n'est pas là le mobile qui doit nous amener à une position apparemment fidèle et chrétienne. Il n'y a qu'une manière de servir l'Éternel, c'est l'amour de l'Éternel. D'ailleurs, qu'est-ce qu'a dit le Seigneur Jésus, touchant le temps de l'Église? Il a dit, l'heure est venue, elle est déjà venue, elle vient, elle est déjà venue. Ouh, mon Père veut des adorateurs en esprit et en vérité. Les amis, ça c'est la parole qui se projette sur tout le temps de l'Église, des adorateurs en esprit et en vérité. Des adorateurs ne peuvent être que des personnes qui aiment l'Éternel. À la fin de son ministère terrestre, le Seigneur Jésus n'a plus parlé que de l'amour. Il parlait de la foi auparavant, mais ensuite il en est venu à l'amour, et pour les chrétiens, ce qui est indispensable, c'est cela, cet amour pour l'Éternel. Servir l'Éternel, non pas pour obtenir tel ou tel avantage, tel ou tel bienfait, telle ou telle bénédiction, non pas par peur même de ne pas obtenir ces bénédictions et d'être peut-être l'objet d'une circonstance désavantageuse ou désagréable, non. Il faut servir Dieu, être dans l'Église, prendre humblement sa part à l'Église, par amour pour l'Éternel, par amour. Cela uniquement. C'est le seul mobile, je vous dirais même que l'amour est le seul mobile de Dieu. Et voilà l'exemple d'un roi, d'un homme, qui n'aimait pas l'Éternel, et qui le sert, en raison de certaines circonstances qui l'entourent, d'une fierté de son cœur, mais brusquement, n'est-ce pas, la circonstance change, et voici ce roi qui se dévoile tel qu'il est au fond de son cœur, c'est-à-dire un roi qui va être méchant avec les méchants, idolâtre avec les idolâtres. Et il est comme son milieu réapparaît, il est de même couleur, il est de même teinte que le milieu, n'est-ce pas? Et il ne faut pas que dans l'Église, nous ayons des personnes qui soient de même teinte que le monde. Et il faut que nous soyons vraiment changés, et étant changés, ayant un cœur nouveau, que nous soyons dans l'amour du Seigneur, et que tout ce que nous faisons, nous le fassions par amour pour le Seigneur. Même, je dirais, d'une manière désintéressée. Nous ne servons pas le Seigneur, nous ne le prions pas, nous ne sommes pas présents dans les réunions de notre Église, ou prenons part à certaines fonctions dans l'Église, en vue de nous procurer des bénédictions, en retour quelque chose. « Non, j'ai fait ça, l'Éternel saura reconnaître que j'ai fait ça, et il me bénira, et il me protégera. » Non, ça ce n'est pas bon. D'une façon absolument désintéressée, nous servons l'Éternel par amour. Il nous donnera, lui, les bénédictions qu'il jugera utile de nous donner. Nous pouvons les demander après, nous pouvons demander ce qui nous est nécessaire, et c'est d'ailleurs l'Esprit qui nous poussera dans cette demande, c'est l'Esprit qui nous conduira dans la connaissance de nos besoins que nous exprimerons par la prière, mais nous servirons l'Éternel uniquement par amour. Et pour bien asseoir cela, c'est la leçon de cet après-midi, servir l'Éternel par amour uniquement, sans quoi nous risquerions nous aussi un beau jour d'être rétrogrades, d'aller en arrière, comme l'a fait ce roi. Et c'est une chose terrible, horrible que cela, que d'abandonner, d'avoir pendant un temps été dans l'Église, sembler être un enfant de Dieu, et s'être comporté même d'une façon satisfaisante à la vue de tous, n'est-ce pas? Et puis un bon moment, faire machine arrière, s'en aller. Mes amis, c'est terrible. Il y a quelque temps, j'étais dans un foyer de chrétiens, et en pleurant, larmes dans la voix, il me parlait d'un certain enfant qu'ils ont, qui est grand naturellement, n'est-ce pas, marié, et qui a été dans l'Église. Il me disait, pourtant, tous deux, n'est-ce pas, étaient baptisés du Saint-Esprit. Ah oui, et ils exerçaient des dons dans l'Église, et puis maintenant, ils sont allés, ils ont été entraînés par des catholiques, ils sont en plein dans l'Église catholique, ils sont revenus au catholicisme et aux pratiques de l'Église catholique, niant, reniant ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont été au milieu de nous. C'est une chose tragique, mes amis, c'est absolument tragique, ça. Et pourquoi une telle chose est-elle possible? Parce que ils n'avaient pas été, sans doute, appris à servir l'Éternel par amour uniquement. Mes amis, servons-le par amour, amour seulement, et là, alors, le Seigneur nous retiendra. Si nous le servons par amour, sa main nous retiendra. Il ne nous laissera pas partir, il nous tiendra fermement. Mais il faut que nous le servions par amour. Nous avons dans quelques textes à voir, par exemple, le Deutéronome, chapitre 10 et verset 12. « Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de tout ton âme. » Voilà ce que demande le Seigneur, n'est-ce pas? D'aimer et de servir l'Éternel de tout ton cœur et de toute ton âme. Voilà ce qu'il te demande. Quant à l'Éternel, lui ne se renie jamais. Il fera sa part. Nous avons aussi dans 1 Chronique 28:9, 1 Chronique 28, verset 9, ce que David dit à son fils Salomon. « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué, d'un cœur entièrement dévoué, dévoué et d'une âme bien disposée. Hein, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. » Il y a là quelque chose d'infiniment triste, grave, tragique, chers amis. Mais je vous le redis, si nous servons l'Éternel par amour, en adorateur, en esprit, en vérité, alors là, nous n'avons rien à craindre. Personne ne nous arrachera de la main du Seigneur. Que son nom soit béni. Amen. Dans le commencement du livre de Job, nous lisons ceci. « Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ou sert Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici. » Tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Voyez, n'est-ce pas, Satan emploie le bon argument. Il dit, mais oui, il te sert, bien sûr, tu l'as comblé, de toutes les manières. Tu l'as comblé, alors comment ne te serait-il pas reconnaissant, rien que par reconnaissance, et pour et dans le désir d'en avoir toujours autant, n'est-ce pas, d'en recevoir de toi toujours autant, alors il t'est fidèle, c'est pas désintéressé, ça. Mais Dieu veut que ce soit désintéressé. Et voyez, n'est-ce pas, c'est alors que Dieu dit à Satan, bon, voici, je te livre tout ce qui lui appartient. Mais pas sa vie, bien sûr, mais je te livre tout ce qui lui appartient. Nous verrons bien. Et en définitive, eh bien, à la fin de toute cette affaire, à la fin du livre de Job, on verra que cet homme servira l'Éternel d'une manière désintéressée, entièrement désintéressée. Ça, il faut que nous le sachions dans nos prières. Pas toujours que nous, n'est-ce pas, disions, merci Seigneur, je te loue Seigneur, parce que tu m'as donné ceci, parce que tu as fait cela. Il faut être reconnaissant, c'est bien. Mais il faut, n'est-ce pas, louer l'Éternel pour lui-même, l'aimer pour lui-même, parce qu'il est l'Éternel, parce que son nom est grand, sa personne est merveilleuse, magnifique, n'est-ce pas, et parce que nous l'aimons, comme, si vous voulez, n'est-ce pas, en moins, moins spirituel, nous aimerions quelqu'un sur la terre, nous aimerions un enfant, nous aimerions un parent, n'est-ce pas, nous l'aimons, n'est-ce pas, mais nous l'aimons pour lui, si nous l'aimons vraiment, nous l'aimons pour lui, pas pour nous, nous l'aimons pour lui. Bien là, l'Éternel, n'est-ce pas, dans cet amour de l'esprit qui doit être parfait, il faut l'aimer pour lui, d'une manière désintéressée. Voilà, il faut s'éduquer comme ça, et l'Éternel sera content, le Seigneur sera content. Chantons le cantique 350.
J'aime Jésus et mon âme l'adore, rien ne pourra de lui me séparer. De jour en jour, je le prie et l'implore, rien ici-bas ne peut le remplacer. La bonne vie, digne d'envie, c'est le connaître et toujours plus m'aimer. Cette vie nous fait si durer, si belle, sublime, éternelle, éternelle, nos dieux. Elle est préférable à l'enfer, glissade et l'étang, mirable, elle vient.